Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Et ben revoilà Contre-Histoire. Alors, je suis en train de vous chercher l'intro aux réjouissances du jour. Et ça sort du monde diplomatique. Voyez si je vous soigne. Alors, on nous parle de pénurie incessante. La capacité de production électrique du continent africain équivaut à celle de l'Allemagne. Les deux tiers des installations sont localisées au Maghreb et en Afrique du Sud, seul pays à détenir une centrale nucléaire. Les autres États disposent de 53 000 mégawatts, soit autant que les capacités du Portugal concentrées sur le pourtour du golfe de Guinée et en Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Selon les chiffres officiels, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité du réseau. 650 millions de citoyens n'ont pas accès à l'électricité. Plusieurs pays ont des taux d'électrification théorique inférieurs à 15%. Sierra Leone, Libéria, Burkina Faso, Tchad, République centrafricaine, Soudan du Sud, Burundi, Malawi. Mais ces chiffres ne comptabilisent que les personnes non desservies par un réseau. Il faudrait y ajouter les populations desservies qui n'ont pas les moyens de payer l'abonnement. Il faut également tenir compte des nombreuses coupures qui affectent le système électrique en raison de la vétusté des centrales, du manque d'entretien et surtout de la sécheresse qui réduit la production hydraulique et qui rendent l'accès au réseau intermittent. La production d'électricité africaine était en 2014 à 80% d'origine fossile. L'Afrique dispose d'environ 34 000 mégawatts d'énergie renouvelable installée. Il s'agit principalement d'hydroélectricité. Mais le potentiel hydroélectrique est estimé à 18 fois la production actuelle, dont la moitié serait économiquement viable dès à présent. Alors 18 fois, ça fait quand même 500 000 mégawatts, si mes calculs sont bons. Eh oui. Les zones côtières de l'Est et du Sud ont un fort potentiel éolien. Les pays de la vallée du Rift, non pas du Rift, mais du Rift, en Afrique de l'Est, disposent d'importants gisements géothermiques. Et bien sûr, le potentiel solaire est très, très, très élevé et bien réparti sur tout le continent. Eh oui. Tout le monde veut électrifier l'Afrique. Alors, je vais vous lire ce que j'ai fait avec l'article d'Aurélien Bernier, journaliste au Diplo, dans cet exemplaire de février 2018, donc numéro 767. Et Aurélien Bernier nous dit à peu près ce qui suit et que j'ai compacté. Tout le monde veut électrifier l'Afrique. Les multinationales de l'énergie s'apprêtent à étendre une toile sur les 650 millions de citoyens africains, non encore équipés ni dépendants de la tyrannique fée électricité. En 2013, Obama lançait en Tanzanie le plan Power Africa, énergie pour l'Afrique, avec la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine pour le développement. Programme piloté par l'USAID, agence américaine pour le développement international, hein, USAID. Cette USAID propose expertise et prêts mirobolants pour financer des projets durables. Durables et par des entreprises américaines, bien sûr. Une espèce de plan Marshall, en somme. Sauf que le plan Marshall, il démarrait par des dons à l'Europe exsangue. À la veille de la COP21, le groupe des 20, le fameux G20, planchait sur un plan d'accès à l'énergie pour l'Afrique subsaharienne. Ce qui peut surprendre pour ce continent qui détient une si forte proportion des ressources énergétiques mondiales, fossiles, mais surtout les inépuisables soleil, vent, hydraulique, etc. Et Jean-Louis Borloo proposait sa fondation Énergie pour l'Afrique pour connecter 600 millions d'Africains en 2025. Tous ces projets charitables faisant intervenir d'aussi respectables et prestigieux partenaires que Carrefour, Bouygues, Vivendi, Jean-Claude Decaux, EDF, Dassault, Eiffage, Engie, Orange, Schneider Electric, Total, bien sûr, et Veolia. Et défense de faire du mauvais esprit en insinuant qu'il s'agit là des plus grands pollueurs ou capitalistes qui soient. Ces grands bienfaiteurs de l'humanité investissent dans l'affaire quelques miettes prélevées sur l'énorme pactole que leur ont rapporté les présidents noirs au masque blanc made in France. On est entre soi. Elle est pas belle la vie. quel soleil! Alors, au même moment, sans tapage médiatique et sans être pris au sérieux, l'IAER, l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables, rassemblait les 54 pays du continent sous la houlette de l'Union africaine. Le but était d'augmenter de 10 gigawatts sa production d'énergie renouvelable d'ici 2020 et de concentrer ses efforts pour atteindre 300 en 2030, multipliant ainsi par 10 sa production actuelle renouvelable et augmentant ainsi sans énergie fossile l'électrification du continent. Le Japon, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont promis 9,4 milliards d'euros d'ici 2020 pour cette initiative. Cette initiative africaine pour les énergies renouvelables. Et sur les 9,4 milliards, il y en a 3 qui sont promis par Paris, figurez-vous. Mais l'IAER, l'Initiative africaine, précise que l'Afrique doit choisir et maîtriser les projets financés, les entreprises africaines étant impliquées d'abord. Eh oui, faudrait bien, parce que en matière de France-Afrique et de détournement des projets, l'Initiative africaine sait de quoi elle parle. En mars 2017, le professeur Youba Sokona, vice-président malien du GIEC, vous savez, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce GIEC qui a alerté le monde et qui a démontré que, contrairement à quelques avis bizarres de célébrités douteuses, le réchauffement climatique n'était pas un mythe. Donc, ce professeur vice-président du GIEC, chargé de l'Union Projet de l'Initiative africaine, a démissionné avec fracas. Il estimait que les financeurs étaient organisés pour imposer des projets automatiquement sélectionnés par les Européens. Ça vous surprend ? Pour preuve, 19 dossiers validés malgré les réserves des membres africains de l'initiative. Et 200 associations africaines signent une lettre ouverte intitulée « Stop au détournement de l'IAER par l'Europe ». La France, en particulier, et oui, impose parmi ses projets les 240 propositions de Ségolène qui devaient favoriser les multinationales de l'énergie et leurs filiales. Certes, le sous-équipement de l'Afrique en électricité entrave son développement. Les propositions d'expertise, de prêts, d'investissement se ressemblent et se multiplient. Surtout, les partenaires publics-privés. Générosité qui cache des jeux concurrentiels. Amérique et Europe sont en surcapacité de production dans leur marché saturé. On ne va pas acheter 4 ou 5 frigos et autant de grille-pains. Sous prétexte qu'il y a une grosse production d'électricité. C'est un marché saturé, c'est ça. Le marché étant saturé, Amérique et Europe sont donc sans grand espoir de croissance en matière d'électricité. Tandis que l'Afrique, évidemment, présente un marché aux besoins gigantesques.
Onia faramane denisagana himaye Onia faramane denitonyola malo kanumala
vigo Salif Keita
Sigimala vili onlabo ma sherela nole Souvent il était le seul invité Il me s'est mis qu'être et dans le vaso de l'hiver. Souvent, il y a cousine nous invite. Comment me s'est mis qu'être et dans le vaso de l'hiver. On y a fait la main et les nitoyala, et malon. On y a fait la main et les nisegena, ou maé, tant nous malavilino contoro, mané le yarabide. Sigi malavilino contoro, mané le yarabide. Foudou malawi, allé pour ma chère l'anole. Souvent, Miri cousine nous invite, et elle aime ses miquettes, et elle aime ma sororife. Souvent, Miri terimousse nous invite, Kuma aime ses miquettes, et elle aime ma sororife. Libé qu'elle est mon écosse.
La plupart des pays africains avaient dans le secteur énergétique des entreprises publiques détenant des monopoles. Mais faute de financement suffisant, ces services nationaux ne sont plus capables d'assurer approvisionnement ni distribution. Et plutôt que de soutenir ces entreprises d'État qui s'étouffent, le FMI, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement imposent les privatisations et la concurrence à coup des ajustements structurels, comme on dit dans le monde économique. Ainsi, en 1998, en Côte d'Ivoire, l'entreprise nationale Énergie électrique se fond dans la société privée Compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, dont l'État ne détient plus que 15% des parts. Et puis, le français Eranov, c'est-à-dire, devinez qui, Bouygues, bien sûr, et AXA, et l'américain Emerging Capital Partners. Et les trois absorbent la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité. L'Angola a aussi réformé son secteur électrique avec un soutien de la Banque africaine de développement de 800 millions d'euros. Selon la formule consacrée, privatisation des bénéfices et socialisation des pertes. Ce qui doit vouloir dire, si je ne me trompe, distribution des bénéfices aux actionnaires et charge des déficits supportés par les consommateurs, par les prix. Le Nigeria et ses 186 millions d'habitants voient l'USAID américaine mener la libération, selon la recette d'Obama, qui reprend les pratiques des ajustements structurels si meurtriers économiquement. Les capitaux étrangers coûtent très cher aux pays qui les accueillent. En Ouganda, par exemple, le partenariat public-privé a fait exploser les prix. Le kilowatt est produit à 2 centimes. Et revendu, devinez combien ? 11 centimes. Par l'agence privée de Karim Aga Khan 4 et la société américaine Sith Global Power. Côté énergie renouvelable, on assiste à un développement rapide, car les installations se font maintenant à coût réduit avec le matériel produit à bon marché. Les producteurs privés se voient proposer un prix d'achat garanti supérieur au prix moyen de l'électricité. Ceci, en principe, pour soutenir la production énergétique. Mais, ce système subventionne aussi, de fait, une privatisation rampante de l'énergie. Ben oui, parce que ce sont donc des particuliers, donc des privés, qui vont participer à la production. Et ça, c'est la porte ouverte à pas mal de choses dans le monde capitaliste. En 2015, Thierno Bocartol, alors PDG de la Société africaine de biocarburants et énergies renouvelables, la SABER, hein, Société africaine de biocarburants et énergies renouvelables. Ce PDG déclarait « Les capitaux internationaux ont enfin trouvé une porte à leur mesure pour entrer en Afrique. Le développement des énergies renouvelables. » Oui. Les besoins en investissement sont gigantesques. Ils sont sécurisés par l'achat public de l'électricité, ça c'est sûr, et par de solides solutions de couverture de risques. Leur profitabilité ne peut que s'accroître au fil des progrès technologiques, ça c'est sûr. Les entreprises françaises du CAC 40 se ruent à l'assaut du secteur. En 2017, le Sénégal raccorde à son réseau la centrale solaire de Sénergie au nord de Dakar, le plus gros projet du genre en Afrique de l'Ouest. Avec le fonds souverain sénégalais Foncis, les Français Meridiam et Engie, bien sûr, se partagent Sénergie. Et Schneider, Eiffage et Vinci fournissent les indispensables onduleurs et transformateurs. Et puis il y a aussi le marché du carbone, pour rassurer tout le monde capitaliste et productiviste. On se souvient qu'en 1997, le protocole de Kyoto avait établi que les industriels trop pollueurs devraient, comme punition, acheter des droits pour continuer de produire et de pourrir la planète. Et que, par compensation, les entreprises peu ou pas polluantes recevraient au contraire des récompenses sous forme de crédits qu'elles pourraient revendre. À qui, à votre avis ? Hein ? Eh ben, aux pollueurs, bien sûr, qui veulent continuer à nous pourrir. L'Afrique est un réservoir de crédits de carbone presque inutilisé, déclare à Paris le jeune français PDG d'AERA, qui sait de quoi il parle puisqu'il revendique 263 millions d'euros de crédits carbone échangés. Alors moi, cette histoire de crédits carbone échangés, ça me fait très peur. Parce que je vois, et je ne suis pas toute seule, un gros risque de voir les pollueurs puissants faire leur prix, négocier leur prix sur ce marché nouveau et fragile, ce qui ficherait bien sûr tout par terre, tout le protocole de Kyoto par terre. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. On va essayer de se consoler un petit peu.
Adim say do the sweet to mind the same and him need not up on the mayo. Yamae do the sweet to mind and him need not up on the mayo. Ila, 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 and him need not up on the mayo. Yamae no soup, papaya mae no say, yamae no soup, bonu yamae no, tamara fetu.
C'était Tomaya de Jean Canabaille. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. En plus, des taux d'intérêt très bas, des fonds de développement et de garanties d'État facilitent les investissements privés. Reste plus qu'à faire des profits sur ces ventes d'électricité. Alors, deux options apparaissent. Soit multiplier les petits réseaux locaux indépendants, du genre village autonome grâce à une éolienne et un champ de capteurs photovoltaïques. Soit créer d'énormes unités pour faire des économies d'échelle, ce qui créera d'ailleurs forcément des pertes dans l'acheminement et des coûts dans la structure de distribution, entre parenthèses. En 2016, la multinationale britannique PricewaterhouseCoopers publie son étude sur la rapide rentabilité des petits réseaux indépendants. La seule question étant le paiement des consommations par les populations pauvres. Question résolue par les compteurs prépayés qui bloquent la distribution quand le crédit est épuisé. Ou alors, comme en Côte d'Ivoire, le système que la compagnie ivoirienne d'électricité a mis au point avec des prépaiements par téléphone. Tous ces moyens économisant aussi les relevés de compteurs. Et les gros centres de production abaissent les coûts de fabrication, mais obligent, pour élargir leur clientèle, à des interconnexions entre États, à cause de la petite taille des pays. Oui, c'est une notion qu'on n'a pas forcément à l'esprit, mais les pays, par exemple, comme le Togo ou le Bénin, ben, ils ne sont pas grands. Alors, les réseaux devraient être interconnectés, sinon ça ne vaut pas le coup de se brancher sur des usines gigantesques comme celles dont on arrive à parler maintenant. Donc, la France et l'Union européenne soutiennent 19 projets dans le cadre de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables, l'IAER. Deux projets d'interconnexion portent sur un total de 1175 km de lignes à construire. Alors, 1175 km, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait Perpignan-Lille et un petit peu plus, quoi, oui, jusqu'à... Même pas jusqu'à Bruxelles. Ça fait pas beaucoup. C'est adapté à la géographie des lieux. Et voilà qu'apparaît le projet très controversé du gigantesque barrage du Grand Inga au Congo. Le Congo, le pays surnommé le château d'eau de l'Afrique, qui concentre 40% des ressources hydroélectriques du continent. Ce barrage devrait être, tenez-vous bien, deux fois plus grand que celui le plus grand du monde, celui en Chine, des Trois Gorges, le plus grand du monde actuellement. Eh bien voilà, le Grand Inga au Congo devrait être deux fois plus grand que ce monument chinois. Alors voilà donc qu'apparaît le projet controversé du Grand Inga au Congo. Alors tout le capitalisme s'y colle. Le G20, la Banque mondiale, l'UCED, bien sûr, et la BAD, la Banque africaine, ou soi-disant elle de développement, étudient la question. De ces études, il ressort que 20% seulement de la future production alimentera le marché congolais. Le reste étant exporté. Et là encore se multiplieront les drames dont on entend parler à chaque fois qu'il y a un barrage, les drames des populations expropriées des 22 000 hectares inondés, populations déportées, paupérisées, qui ne bénéficieront d'ailleurs pas toujours des bienfaits de la fée électricité, qui les narguera depuis les 15 000 kilomètres de lignes THT. Alors ces lignes-là, ce sont donc des lignes THT puisqu'elles vont aller jusqu'en Afrique du Sud et elles sont d'une puissance énorme, genre ce qui sort des centrales nucléaires, et ça n'a rien à voir avec les 1175 petites lignes qui sont à construire entre les petits pays, par exemple, de l'Afrique occidentale. Voilà. Il ne faut pas croire que cette monstruosité de barrage soit étudiée pour les besoins du peuple. Le gros consommateur d'électricité en Afrique, c'est quoi, à votre avis? Eh bien, c'est l'industrie minière. Et donc, c'est le capitalisme mondial. celui qui pousse à changer d'iPhone, d'ordinateur, de tablette tous les 6 mois. Les mines du Katanga et d'Afrique du Sud attendent le Grand Inga. Partout, les coupures d'électricité se multiplient. Et c'est pourquoi les mines préfèrent produire leur propre électricité, à partir du charbon ou du pétrole. Même si le coût est 4 fois plus élevé que celui du réseau national.
Urban Soul Collective présente Zézé et Toto avec la participation de Caïn, en direct de Toulouse. Ça c'est bon ça.
Voilà, par Lucky Gomez, en direct ou presque de Toulouse, vous l'avez entendu, c'était Zézé et Toto. La Banque mondiale parie que les mines, c'est-à-dire les acheteurs ou l'acheteur principal d'électricité, boosteraient la production tous azimuts, et aussi les secteurs assortis, en particulier le transport d'électricité. Ce qui serait bénéfique aux producteurs privés et aux mines, qui produiraient moins cher, et finalement permettrait une plus grande exploitation des minéraux et des métaux dont les prix s'envolent. Et la population, les citoyens, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est intéressant pour les capitalistes, c'est que ça permettra d'exploiter à moins cher les mines. En 2016, le rapport « Électrifier le pillage ». Clair et net. Électrifier le pillage. Là, on a tout compris. Rapport de l'association Western Sahara Research Watch révèle que le Maroc utilise les énergies renouvelables avec l'aide du Saoudien Aqua Power qui fournit les centrales. Il utilise ces énergies renouvelables pour exploiter le phosphate. Fort bien, ma foi. Sauf qu'il s'agit des mines de phosphate sahraoui et que le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc. Voir la résolution 1754 du Conseil de sécurité des Nations Unies, datée de 2007. Eh oui. En 2015, la Chine a signé pour plus de 13 milliards de dollars de contrats sur le marché africain de l'électricité, ce qui lui attribue 30% des nouvelles installations et amène à 46% les investissements chinois totaux en la matière, c'est-à-dire 1 mégawatt sur 2. Pékin progresse en renouvelables, mais, prépare aussi, devinez quoi, le nucléaire de l'énergie électrique africaine. China General Nuclear Power a signé au printemps 2017 pour la première centrale nucléaire de 1000 MW au Kenya, avec extension à 4000 MW en 2030. Cette entreprise exploite aussi l'uranium de Namibie depuis 2012. La Chine contrôle aussi la société des mines d'Azelik au Niger et attend d'intervenir en Égypte, au Nigeria, en Algérie, au Maroc, en Ouganda, au Niger, au Kenya, au Ghana, en Tunisie, lesquelles annoncent leur intention de se lancer dans le nucléaire civil. Elle s'y retrouvera en concurrence avec des gens qu'elle connaît bien, la Russie, qui a pris ses marques en Égypte et au Nigeria. Et avec la France, d'EDF et d'Areva, évidemment. Bon courage à tous.
Spéciale délicace à l'Est, fait quand le président de Nigeria est pour moi. L'homme qui fait beaucoup pour moi, Bijan.
Calmement, calmement, calmement.
C'était Lago à Toto par DJ Serpent Noir. Et oui, le nucléaire arrive en Afrique, alors que nous, on ne sait pas comment s'en débarrasser. On peut se demander si ce n'est pas là que se joue l'avenir démocratique ou non de tout le continent. Est-ce qu'on verra se développer les productions locales libertaires, à la mode colibri? Ou le monstrueux cheval de Troie néocolonialiste? À l'énergie renouvelable ou pas? La nouvelle génération le saura. La Chine, les États-Unis et Areva sont sur les starting blocks. Et ça me fait penser à certains chefs d'État surpuissants qui détient les ficelles du confort ou même de la survie de certains quartiers ou même de certaines villes dont il peut couper l'eau ou le chauffage, etc., en fonction de leur vote. Voilà comment on peut jouer sur la démocratie d'une région, d'un pays. Oui, oui. À méditer. Je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup. Et à la semaine prochaine. À samedi prochain.
This morning I was born again and a light shines on my land. I no longer look for heaven in your deathly distant land. I do not want your pearly gates, I don't want your streets of gold. This morning I was born again and a light shines in my soul.